Bonsoir à tous. Il fait un petit peu froid dans la chapelle ce soir. Je crois qu'on va recommencer, n'est-ce pas, à avoir des cultes avec le feu de bois. Oh là 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 là. C'est de nouveau l'hiver. On s'en fiche, c'est bientôt Noël, c'est bientôt m'anniversaire. L'hiver, c'est surtout m'anniversaire. On a retrouvé une belle photo, je dis ça parce que c'était Camélia qui disait toujours « C'est bientôt mon anniversaire ». Camélia, c'était ma maman spirituelle, une sœur gitane. Et on a retrouvé une photo d'elle, là, dernièrement. Elle est en train de prier dans l'église du pasteur Molenda. C'est très, très beau de voir cette photo. Ceux qui, la voudraient, je peux vous la faire, vous la donner. C'était une femme de Dieu formidable. Je vous invite à lire Actes chapitre 1, versets 4 à 5. C'est Jésus, comme il se trouvait avec eux, donc Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce soir, je voudrais faire une étude, parce que on entend beaucoup de choses au sujet du baptême du Saint-Esprit, et je voudrais que nous soyons, nous autres, ici, au sanctuaire, au clair. Bon, les uns croient ceci, les autres croient cela. Je regardais encore sur le Online Bible au sujet de ce qu'ils croient. Alors, il y a toutes sortes de choses. Les chrétiens admettent qu'on peut croire ceci ou croire cela, n'est-ce pas? Vous avez les pentecôtistes qui pensent que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le jour de la Pentecôte. Le parler en langue, c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Bon, les baptistes ne croient pas à ça. Pendant longtemps, les pentecôtistes ont dit, si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, on n'est pas dans l'Église, on n'est pas dans le corps. Donc, ils excluaient tout le monde en disant qu'il n'y a que nous qui sommes sauvés, en quelque sorte. Ils ne le disaient pas comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Et il y a beaucoup de choses. Donc, je voudrais que nous autres, on soit au clair. On ne veut pas simplement répéter ce qui est dit dans les Églises, mais il faut que nous ayons, nous aussi, notre compréhension vraiment à nous. Je ne veux pas dire que c'est parce qu'on veut se différencier des autres, mais il faut être sûr de ce qu'on croit. On ne peut pas dire « Ah ben, je crois celui-là par hasard » ou « celui-là par hasard ». Non, 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 il faut savoir ce que nous, nous croyons. Donc, tous ces derniers temps, je vous enseignais que nous sommes des esprits dans un corps, et c'est vrai, mais seulement en partie, mes frères et sœurs. Pour en arriver au but que Dieu veut que nous atteignions, eh bien, on a vu qu'il faut passer par diverses étapes. Je ne vais pas reprendre toutes mes vieilles prédications que j'ai faites ces derniers temps. Je vais juste vous rappeler les étapes normales par lesquelles on a à passer, que je vous ai décrites, soir après soir. Alors, premièrement, nous sommes nés dans un état d'innocence. Bon, c'est vrai que nous sommes pécheurs par Adam, mais quand même, quand vous regardez un bébé, il a un temps d'innocence, c'est vrai. Hein, on peut pas, c'est le petit Timothy... Bon, il est né dans ce monde de pécheurs, on est tous infestés par le péché, mais lui, il est innocent, vous êtes d'accord. Jusqu'à l'âge de 12 ans, la Bible dit qu'un enfant, il n'est pas tenu pour coupable devant Dieu de quoi que ce soit. Et voilà, on peut revenir sur ces choses. Et puis ensuite, on a découvert notre moi, c'est-à-dire on commence à avoir le sentiment du « je ». Hein, il y a moi, il y a ma maman, il y a mon papa, il y a les autres, tout ça. Ensuite, on en arrive au point de l'action, on commence à prendre les jouets, à prendre les machins. Je vous ai expliqué toutes ces choses-là, l'action. Et puis ensuite, on a mûri, et puis on est arrivé à l'étape où on arrête de s'approprier tout, mais on partage, on donne, on devient des donateurs. Je vous ai fait aussi un parallèle en disant que ça, c'est bon pour la vie normale de tout le monde, mais c'est aussi bon sur le plan spirituel, quand on est né de nouveau. C'est comme ça aussi que ça se passe, vous vous rappelez sûrement. Si vous ne vous rappelez pas, vous réécoutez mes vieilles prédications. Et puis ensuite, et puis elles ne sont pas longues, mes prédications, hein, quoi, elles font 20 minutes en général, donc on peut les écouter quand même assez facilement. Donc ensuite, on a découvert que insatisfait par le fait de donner, parce que c'est vrai qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais encore là, on est insatisfait, alors on devient des chercheurs. Vous vous rappelez de cette étape. Et puis, on se rend compte assez rapidement, enfin pour certains, il y en a qui restent des chercheurs toute leur vie, mais il y en a d'autres qui n'ont pas d'épanouissement vraiment extraordinaire tant qu'ils sont des chercheurs. Parce que la vie, c'est frustrant, en fait, de chercher puis qu'on ne trouve pas. Donc, on tient des trouveurs. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que gloire à Dieu, celui qui cherche, il trouve. Et dès le moment où on se met à chercher, on se met à trouver, on se met à entrevoir ce que nous cherchons. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme si on trouve un fil rouge et il y a plein de coïncidences qui se produisent qui font que, voilà, ben, moi je me rappelle quand j'ai découvert au sujet de la guérison, eh bien toute la Bible ensuite me parlait de la guérison. Quand j'ai entendu le message de l'abondance, toute la Bible me parlait de l'abondance. Ça ne vous a pas fait ça? Au sujet, par exemple, de la vie communautaire, après on trouvait plein de choses dans la Bible où c'était question que de la vie communautaire. Donc, une des premières choses qu'on trouve quand on cherche, c'est que nous ne sommes pas des esprits, c'est-à-dire des fantômes, qui vivons à l'intérieur d'un corps qui serait une machine de chair. Tout ça, c'est tellement imbriqué l'un dans l'autre. Parce que notre corps, il est spirituel. Bon, je vous ai expliqué, bon, on dit toujours charnel et spirituel. Mais charnel, ce n'est pas forcément le corps qui est charnel, c'est notre façon de penser, tout ça, c'est ça qui peut être charnel. Celui qui cherche dans les Écritures avec un cœur qui est purifié dans le sang de Jésus-Christ et qui a une conscience donc pure, avec une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est pur et qu'il s'arrête à ça et non pas à tous les détails de la vie qu'il essaierait de lui prouver par toutes sortes d'accusations mensongères du diable qu'il n'est pas pur. Celui qui est vraiment renouvelé dans l'intelligence par le Saint-Esprit, eh bien, il sait que tout est esprit. J'explique. Mon frère, ma sœur, ton corps est né de Dieu, créé par Dieu, qui est esprit, et il est esprit, ton corps, selon la nature de celui qui l'a créé. Dieu peut, c'est pas que Dieu peut pas, mais Dieu ne va pas créer quelque chose qui lui soit complètement étranger. Donc c'est de l'esprit, et comme je vous ai dit, si vous voulez, c'est de l'esprit à basse fréquence, hein, c'est-à-dire c'est lourd. Les scientifiques ont découvert, et plus on va en avant dans la science, plus on découvre qu'en fait, il y a plus de vide dans la matière que de matière. Hein, vous savez ça. Et que pour Jésus, ce n'était pas étrange du tout de passer à travers un mur, parce que normalement, on devrait pouvoir passer à travers les murs. Mais c'est les énergies vibrant chacune à leur vitesse, hein, si je dis ça en vulgarisant beaucoup, qui fait qu'il y a choc, c'est des chocs d'énergie, des chocs de puissance, d'énergie, d'esprit. Alors, par ce corps que Dieu nous a créé, nous communiquons avec ce que nous appelons les cinq sens. Et quand je parle de l'esprit, je parle des choses et d'un monde qui est absolument impossible de percevoir par nos sens. Même par notre raison, on ne peut pas. Alors, ceux qui viennent prétendre, qui sentent la présence de Dieu, en fait, ils ont une impression par les cinq sens. C'est toujours par la chair. On sent le Saint-Esprit, soi-disant, hein, par la chair. C'est par la chair. Parce que comment voulez-vous sentir l'Esprit de Dieu, sinon par l'Esprit, par votre esprit? Et notre esprit n'a pas des sens pour sentir des choses. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. C'est des choses d'enfant, c'est de l'enfantillage. On ne sent pas l'Esprit de Dieu avec notre corps. C'est pas vrai. On a des émotions, on peut avoir tout ce que vous voulez, mais sentir la présence de Dieu, ça c'est un truc pentecôtiste, ça n'existe pas dans la réalité. Hein. Je vous le dis, je le répète, parce qu'il faut qu'on, il faut pas qu'on on tombe dans des trucs comme ça. La communion avec le Saint-Esprit ne peut se faire que par notre esprit. Et le monde de l'esprit, il éclaire un petit peu notre compréhension, moyen de penser, mais on n'a rien à sentir. Pour essayer au mieux de me faire comprendre, je dirais que, par exemple, quand vous apprenez quelque chose du monde créé, de la matière, de toutes ces choses-là, vous assimilez un savoir. Par contre, quand vous apprenez quelque chose au sujet de l'esprit, vous devenez ce savoir. Voilà pourquoi on dit que Jésus, il est la parole. Voilà pourquoi on dit que Jésus, il est la sanctification. Voilà pourquoi on dit que Jésus, il est le salut. Vous comprenez ? Il n'a pas fait quelque chose ou il n'a pas dit quelque chose, il est cette chose. Alors il le communique par des actions, il le communique par des paroles, mais il est cela, il est notre justice. C'est difficile, vous allez vers un inconverti, vous dites, savez-vous que Jésus-Christ est la justice de quiconque croit en lui? Mais ça ne veut rien dire. Nous, ça veut dire quelque chose si on se donne la peine de chercher à le comprendre. Et on peut le comprendre seulement en analysant tous les textes qui vont avec, et on appelle ça l'analogie de la foi, ce qui fait qu'on peut avoir une croyance quand même qu'on peut comprendre. D'accord? Ok. Bon, alors, vous vous trouvez, donc, entre guillemets, là où la réalité est pure et simple, lorsque vous apprenez quelque chose du Saint-Esprit. Vous vous trouvez là où est la réalité, la vérité, la réalité. Ce que nous pensons être la réalité, il est de plus en plus prouvé que ça n'est pas la réalité. C'est une illusion. C'est une illusion dans laquelle on vit pendant un temps et on va retourner de là où nous venons, c'est-à-dire dans le monde de l'esprit. Et c'est à ce niveau-là, que nous devons nous trouver. C'est à ce niveau-là que le disciple doit arriver, étape par étape. Ça ne veut pas dire qu'il est mal tant qu'il n'est pas arrivé à ce point-là, mais il est encore en train de grandir, il est encore en train de mûrir, et ce qu'il doit, il doit arriver au point où il le voit. Quand je dis le mot « voir », ce n'est pas exactement ça, mais puisque Jésus dit que quelqu'un qui n'est pas spirituel est aveugle, eh bien, je dirais que le contraire, quelqu'un qui est vraiment spirituel, il voit dans le monde de l'esprit, il voit. Vous comprenez la situation? Alors, quand un disciple voit quelque chose du monde de l'esprit, c'est une évidence. Il n'a pas à juger la chose, il n'a pas à mesurer la chose, il la croit et il ne la juge pas, il est comblé, il n'y a plus de manque à combler, c'est quelque chose qui le comble, il est là, dans ce monde, dans ce corps, et il sait, voilà, il peut dire « je sais ». Alors maintenant, pour arriver à expliquer la chose qu'il sait, c'est toute une autre affaire. Et on a affaire à beaucoup de gens qui sont très simples. Par exemple, dimanche, j'étais en train de prêcher dans une église, et je reprêchais ce message de disant que Jésus ne nous appelle plus ses serviteurs, mais ses amis. Alors j'insistais sur ce fait et je me tournais vers le pasteur lui disant « Alors, est-ce que tu es encore un serviteur de Dieu ou est-ce que tu es son ami ?» Alors il dit « Je suis son ami. » Et tout, puis c'était, j'expliquais bien comme je vous ai expliqué ici. Mais après avoir fait cela, après avoir prêché, le pasteur a dit « Écoutez, c'est pas parce que le pasteur Janton a dit que nous sommes plus serviteurs mais amis que nous n'avons plus à servir Dieu, vous avez bien compris ça. » Puis il s'est tourné vers moi en disant, parce que des fois, ils comprennent tout à l'envers. Et c'est vrai que dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de gens, la Bible le dit, peu d'intelligents, etc. Hein, il y a beaucoup de gens très très simples. Alors il faut bien expliquer, il faut bien que les gens comprennent le mieux possible. Et ce n'est pas toujours facile, parce qu'on parle de choses déjà à la base qu'on ne peut pas vraiment expliquer avec des mots. Donc, quand on dit voir les choses de l'esprit, c'est pas juste non plus, mais dire que quelqu'un est aveugle, c'est pas juste non plus, mais c'est des mots pour expliquer quelque chose et il faut jouer avec. Et parmi les disciples de Jésus, c'est-à-dire parmi les prédestinés au salut, ben il y a trois sortes de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas encore découvert leur être, ce qu'ils sont. Il y a ceux qui ont eu un avant-goût de cela. Et puis, il y a ceux qui vivent immergés dedans. Alors, ce que les pentecôtistes appellent le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que les disciples ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Baptême dans le Saint-Esprit, ça voudrait dire qu'on est plongé dedans. Mais comment voulez-vous être plongé dans le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est Dieu et qu'il n'y a pas un endroit où il n'est pas? On est toujours dedans, si vous voulez. Hein ? Il faut comprendre la chose. Ce n'est pas tout à fait exact. Les pentecôtistes, ils n'ont pas, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, ce qu'ils expérimentent en parlant en langue. Ils vivent la restauration des dons de l'Esprit. Je sais de quoi je parle, puisque ça fait maintenant plus de 40 ans que je vis cela et que je manifeste des dons. Je sais donc de quoi je parle. Les 9 dons ont été restaurés au début du siècle passé, bien que tout au long des âges, il y a toujours eu des gens spirituels qui ont manifesté ces dons. Mais, mes frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose que d'être immergé dans le Saint-Esprit. Si vous prenez une bouteille avec un bouchon dessus, la bouteille vide, avec un bouchon dessus, vous pouvez l'immerger, mais elle n'est pas remplie. Est-ce que vous saisissez la chose? Faire des miracles, c'était à la portée des disciples bien avant le jour de la Pentecôte. Même des hommes et des femmes de l'ancienne alliance ont fait des miracles puissants. Ils étaient, par moments, remplis du Saint-Esprit. Alors maintenant, ne comprenons pas ces choses-là. On en est arrivé à parler d'onction passagère. Et hier encore, j'étais à la librairie chrétienne et j'avais un bouquin de Kenneth Hagin, chez qui j'ai prêché, que j'aime beaucoup. Il est parti vers le Seigneur maintenant, mais bon. Alors, il parle de cette onction en disant que lui, il a eu une onction particulière 3 ou 4 fois dans sa vie. Il suffisait qu'il touche les gens avec le doigt et pour que cela parte en langue, etc. ils ne savent plus comment appeler les choses parce qu'ils ne comprennent pas les mots qui sont dans la Bible et qui sont là pourtant pour être bien compris. Alors ils en inventent d'autres. Onction. L'onction du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec ça. Une onction, on est loin pour une fonction. Et quand on est rempli du Saint-Esprit et immergé dans le Saint-Esprit, on n'a pas besoin encore en plus d'avoir une onction. Nous avons été loin dès le départ pour une fonction. Alors, des gens ont été remplis du Saint-Esprit longtemps avant la Pentecôte, c'est-à-dire remplis du souffle de Dieu, de la vie de Dieu qui est venue en eux ou sur eux. Et je vais sûrement choquer certaines personnes, mais on peut être baptisé du Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit. Il faut le dire. Les 120, par exemple, ont tous été remplis du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte à Jérusalem. Ce n'est pas écrit qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, là. C'est écrit qu'ils ont été remplis. Acte 2, 4. C'est différent, être plongé dedans ou être rempli. Les mots sont là. On n'a pas le droit de jouer avec les mots. Il faut prendre les mots tels qu'ils sont. Parce qu'ils ont. Dieu a voulu que ce soit ces mots-là. Alors, croyons à les mots que Jésus dit. Et. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont manifesté, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont manifesté le parler en langue, entre autres. Hein? Et comme je vous dis, il y a une différence entre rempli et être immergé. Jésus avait dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire immergés du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Mais écoutez bien, c'est là où ça va un peu vous étonner. Ça signifie, dans peu de jours, vous serez les baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire ceux que l'Esprit va immerger. Vous allez, dans peu de jours, être ceux que l'Esprit va baptiser. Vous allez, dans peu de jours, être ceux que l'Esprit va immerger. Et vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Ils ont reçu cette puissance pour être des témoins. Ils ont témoigné et cela leur a valu une persécution. Après la persécution, ils se sont réunis entre eux et ils ont prié pour être à nouveau remplis du Saint-Esprit. Acte 4, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'étaient plus remplis du Saint-Esprit. Il a fallu qu'ils soient remplis de nouveau. On peut donc perdre cette plénitude et la retrouver en priant. Mais alors, qu'est-ce que c'est le baptême, c'est-à-dire l'immersion du Saint-Esprit? Pas dans, du. Nulle part il est question d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus promet que les disciples recevraient le baptême du Saint-Esprit, acte 1, 5. C'est le Saint-Esprit qui allait les baptiser dans. Paul y parle de ce baptême. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un corps. Ah, baptisé dans un esprit? Oui, mais le corps de Christ, c'est un esprit. C'est spirituel, le corps de Christ. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas spirituel? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Et si les pentecôtistes ont raison de dire que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce qu'ils ont reçu à la Pentecôte, eh bien, ça veut dire que tous ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas immergés dans le corps de Christ. C'est une hérésie. C'est sectaire. Ce baptême dont Paul parle n'est pas ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ce dont Paul parle là, c'est le baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit que Jésus pratique dans Matthieu 3, 11. Jean-Baptiste dit, moi je suis venu vous baptiser d'eau, mais celui qui vient, Jésus vous baptisera dans le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire qu'il vous immergera, lui, du Saint-Esprit et de feu. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être baptisé de l'Esprit, c'est-à-dire de l'élément Esprit. Comme Jean baptisait d'eau, c'était l'élément eau. Voilà, moi je vous baptise avec cet élément-là, c'est l'eau. Et maintenant Jésus viendra et vous baptisera de l'élément Esprit. Être baptisé dans cet élément, c'est être mis dans le corps de Christ qui est Esprit. Parce que le corps est spirituel tout comme tout est spirituel. Et c'est Jésus-Esprit, Jésus le Saint-Esprit, qui est le baptiseur. qui baptise dans le nouveau corps, dans son nouveau corps qui est l'Église. C'est Jésus le Saint-Esprit et non plus Jésus homme qui immerge dans son corps nouveau qui est l'Église. Il ne pouvait pas les baptiser dans ce corps, les immerger dans ce corps, puisqu'il avait encore son corps. Il fallait qu'il remonte au Père et puis qu'il vienne les remplir. Et puis à partir de là, ces gens remplis d'esprit les immergeaient dans son corps. Le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est que l'Esprit Jésus a immergé les 120 dans le corps spirituel de Christ qui est sur la terre et qui y est encore, c'est-à-dire son Église. Je répète, le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, a immergé les 120 dans le corps spirituel de Christ qui est l'Église. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. On ne peut pas être sauvé si on n'a pas eu ce baptême-là, c'est-à-dire si on n'a pas été immergé dans l'Église, si on n'a pas été plongé dans l'Église, si on ne devient pas un membre actif de ce corps. Quand on est immergé dans le corps de Christ, on n'est pas forcément rempli du Saint-Esprit. Les baptistes ne sont pas remplis du Saint-Esprit. S'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils feraient des choses surnaturelles, ils ne le sont pas. Cela dépend de notre vie de foi, de notre vie d'amour, de notre espérance et des prières. Là, ils ont prié pour être à nouveau remplis du Saint-Esprit, comme ils l'avaient été le jour de la Pentecôte. Ils n'ont pas été rebaptisés dans le Saint-Esprit, ils ont été remplis. Rappelez-vous, une bouteille avec le bouchon, une bouteille vide avec un bouchon dessus, vous pouvez la plonger dans l'eau, elle est baptisée, elle est immergée, mais elle peut ne pas être remplie d'eau. Une différence. Ne faites pas dire à Jésus ce qu'il ne dit pas et ne construisez pas des doctrines avec, en tordant les mots. Il faut prendre les mots tels qu'ils sont et ça devient, je ne dirais pas très simple, mais en tout cas, ça arrête d'être faux. Vous êtes né de nouveau, vous avez été immergé par Jésus dans l'Église, plongé dedans, c'est-à-dire dans son corps, dont vous êtes membre. Alors, Judas, lui, par exemple, n'a jamais été immergé dans ce corps. Parce qu'il n'existait pas ce corps-là du temps où Judas vivait sur la terre. Le corps de Christ, c'était ce bonhomme qu'on voyait, ce barbu. Maintenant, ce corps, c'est l'Église, c'est ce que je vois là devant moi. C'est différent. Ce corps, il a pris vie le jour de la Pentecôte. Le corps de Christ est spirituel comme tout est spirituel. Voilà pourquoi, quand on dit baptisé dans l'esprit, ça veut dire baptisé dans le corps spirituel. Spirituel, esprit, c'est la même chose. Et c'est Jésus qui le fait. Mais quand on sait qu'il n'y a pas de Trinité, qu'il n'y a pas trois personnes, mais que le Saint-Esprit, c'est Jésus, alors à ce moment-là, on comprend pourquoi c'est écrit que c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, alors que quand même la Bible nous dit, le Père vous enverra le Saint-Esprit. Mais sinon, on ne peut pas comprendre. Et ça demeure un mystère, mais les gens adorent les mystères. Moi, j'aime pas. J'aime comprendre les choses. Et quand on prend les mots tels qu'ils sont, on comprend très, très bien. Si on donne un peu de peine, si on s'en fout, on ne comprend rien, ça c'est sûr. Mais c'est dans ce corps spirituel-là, dans l'Église, qu'il faut être immergé pour être disciple. Une personne qui a reçu ce baptême-là, qui est membre du corps de Christ, membre du corps spirituel, membre de cet esprit-là, il peut ne pas être au top, c'est-à-dire il peut ne pas être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il a eu une persécution puis il est découragé. Parce qu'il y a des gens qui sont venus et qui l'ont pompé, qui lui ont pompé toute sa puissance, toute son énergie. Vous comprenez ? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, par contre, il n'appartient pas à Dieu. Romains 8, 9. Mais on peut en avoir pas la plénitude. C'est pourquoi quand on n'a pas la plénitude, il faut aller sur ses genoux puis prier pour avoir cette plénitude. Par qui vivez-vous ? Par l'Esprit de Christ ? Si l'Esprit de Christ habite en vous, l'apôtre Paul le dit, Romains 8, 9. Vivez par le Saint-Esprit, on pourrait le lire, Romains 8, 9, c'est plus simple si on le lit. Romains 8, 9. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah, le Saint-Esprit, c'est donc l'Esprit de Christ. Il n'y a pas l'Esprit de Christ, plus le Saint-Esprit, plus l'Esprit du Père, ça ferait déjà trois esprits, plus trois personnes, ça fait six. Oh là là là, quelle histoire. Mais pourquoi ils compliquent tout comme ça? Et ils disent que c'est nous qui compliquons. Mais nous ne compliquons pas, nous prenons simplement les mots qui sont là, et c'est clair. Le baptême du Saint-Esprit ne sauve pas, mais celui qui est sauvé, il est immergé dans le corps de Christ et il se met à vivre par l'Esprit de Christ. Et quand il est épuisé, il vient sur ses genoux et il est à nouveau rempli. Et Dieu ne fait pas de reproche. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est donc pas une expérience, c'est l'immersion dans le corps de Jésus-Christ qui vit actuellement sur la terre. Et ça, ça se fait, mais le jour où on se donne à Jésus. Le jour où vous vous donnez à Jésus, vous êtes plongé dedans. Vous êtes le corps de Christ, chacun pour sa part. Vous êtes membre de ce corps, membre actif de Jésus sur la terre, vivant par lui, vivant pour lui. Est-ce que vous le voyez? Maintenant, on le voit maintenant. C'est plus qu'une expérience. Et vous pouvez être plus ou moins rempli du Saint-Esprit, avoir une mesure plus ou moins grande de l'Esprit-Saint. C'est vrai que Dieu ne donne pas avec mesure. Il ne mesure pas en disant, oh ben lui j'en donne un petit peu. Lui. Non, non, il ne fait pas attention à ça. Mais nous pouvons, nous, je répète, nous fatiguer, être découragés. Nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit qui se retire. Alors on va vite sur nos genoux, on prie, on est à nouveau rempli. Et là, les disciples, ils ont prié tellement fort que même la terre s'est mise à trembler. C'était une expérience, ça, par contre. Alors, nous pouvons revenir au trône du grand donateur et être remplis de nouveau. C'est ça, être abreuvé. Écoutez bien. Nous avons en effet été baptisés, immergés, plongés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez qu'il y a deux choses. Nous avons été plongés et nous avons bu, c'est-à-dire nous avons été immergés, mais nous avons été remplis. Nous avons été abreuvés, au point même d'en être ivres le jour de la Pentecôte. Voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Pour quelle raison devons-nous être remplis du Saint-Esprit après avoir été baptisés dans le corps de Christ? Ben pour être des témoins efficaces, parce que si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on trimballe? On trimballe nos avis, nos opinions, nos doctrines, nos interprétations, nos machins. Mais il n'y a pas la puissance. Et la puissance, c'est quoi? C'est une puissance efficace pour convaincre, corriger, exhorter, consoler, guérir, chasser des démons, parler des nouvelles langues, prophétiser, discerner les esprits. Il y a 9 dons surnaturels qui font qu'un homme ou une femme est efficace parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Elle peut manifester le fruit de l'Esprit et toutes ces choses-là. Mais nulle part des choses où la chair flanche parce que, et puis s'écroule. Ça n'est pas biblique. Ça n'est pas biblique. On tombe sur sa face dans l'adoration. On tombe sur sa face dans l'adoration devant Jésus. Comme quand on nous braque avec un revolver, on lève les mains. Et bien quand on se trouve devant la présence de Dieu qui est particulière à un moment où on en est vraiment tout à fait conscient, on flanche les genoux devant lui. Oui, là on tombe devant sa face, sur notre face. Je dis pas que les pentecôtistes ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Je dis qu'ils sont tout autant baptisés du Saint-Esprit que tous les véritables chrétiens, c'est-à-dire les protestants, c'est-à-dire les catholiques qui aiment vraiment Jésus-Christ, le Jésus de la Bible, les baptistes, les darbistes, les mélonites, tous ces gens qui aiment Jésus, qui ont été baptisés dans son corps. Mes frères baptistes qui ne parlent pas en langue, ils font partie du corps de Christ. Et puis après, on va dire que je suis sectaire, mais c'est faux. C'est de croire autre chose qui est sectaire. C'est de croire qu'il n'y a que nous seuls qui avons été mis dans le corps, avec le signe initial du parler en langue. Mais c'est cruel de dire des choses comme ça. C'est méchant et c'est faux. tout ce qui est faux et méchant. Je dis qu'ils sont autant baptisés dans le Saint-Esprit, les pentecôtistes, que tous les vrais chrétiens. Et que les pentecôtistes ont vécu la restauration des dons parce que, plus que d'autres, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vide en eux, il y avait quelque chose qui n'était pas plein, et ils ont prié avec ferveur et ils ont été remplis comme au jour de la Pentecôte. Ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont, eux, et que nous avons, nous. Mais ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Et les dons de l'Esprit, le surnaturel, a pris le dessus, ils se sont mis à parler en langue, à guérir les malades. Mais mes frères et sœurs, je peux vous dire, quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, qui est baptisé, qui est dans le corps de Jésus-Christ, même s'il est raplapla spirituellement, il peut encore parler en langue. Vous n'avez pas fait cette expérience? Parce que ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Il peut même aussi guérir des malades. Il ne le reprend pas. Mais à nous de savoir si nous sommes remplis ou pas. Ça, personne ne peut juger. Tout ça, c'est spirituel, difficilement discernable, difficilement explicable, sinon par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il y a quand même un minimum à comprendre. Et ce soir, ben, j'ai essayé, je me suis appliqué à vous éclairer par les Écritures. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous pouvez réécouter. Mais la chose, c'est, est-ce que vous avez goûté au don? Si oui, alors le monde matériel va s'effacer et vous allez commencer à voir que tout est esprit. Si vous avez goûté, l'étape suivante est que vous allez disparaître comme la lumière d'une bougie disparaît à la lumière du soleil. C'est ça, diminuer afin qu'il croisse. Ça ne veut pas dire que moi, je vais disparaître dans mon trou de souris puis que je ne vais plus rien faire. Non, ça veut dire que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ce qu'il faisait autrefois, il le fait au travers de moi. Vous voyez la chose? Pas seulement les actes de puissance, de guérison et des choses comme ça. Et je sais de quoi je parle. Même l'autre jour, mon chien Potter a été piqué par une abeille. Il adore les abeilles. Moi, j'adore Dieu, lui, il adore les abeilles. Il courait derrière une abeille, il l'a attrapé et il s'est fait piquer. Mais tous ceux qui l'ont entendu, ils se sont demandé s'il y avait un chien qui avait été écrasé. Tellement qu'il hurlait, il hurlait. Michou a réussi à l'attraper par le col. Elle me l'a emmené. Je suis sorti de mon bureau, je me suis assis sur le pas de porte et j'ai pris sa tête dans mes mains et j'ai dit au nom de Jésus, je lis cette souffrance, je chasse cette douleur au nom de Jésus, que ça disparaisse instantanément. Le chien, il s'est tué, il était guéri. On a cette puissance, mais ce n'est pas parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Dieu m'a donné, gloire à Dieu. Mais allez sur vos genoux pour recevoir. Nous devons au moins une fois être remplis pour pouvoir recevoir toutes ces choses et ensuite les donner, parce qu'on est là pour donner. On reçoit pour pouvoir donner. Mais une fois qu'on a donné, ben on n'a plus. Et ce qu'il faut, c'est aller de nouveau sur ses genoux. Parce que quand Jésus, par exemple, passe dans une rue et une femme touche le bord de son vêtement, qu'est-ce que c'est écrit? Qui m'a touché? Tout le monde te touche, Seigneur. Oui, mais quelqu'un m'a touché différemment. Une force s'est sortie de lui. Vous voyez, cette puissance du Saint-Esprit, si vous l'avez en vous, ça ne demeure pas toute votre vie. Ça sort de vous chaque fois que vous priez pour un malade, ça sort de vous chaque fois que vous avez une épreuve, une difficulté, et il faut retourner sur les genoux pour... Voilà pourquoi Jésus priait tous les jours. Tous les matins, avant que le soleil se lève, il priait. Et puis ensuite, il allait faire sa journée remplie du Saint-Esprit. D'accord ? Vous allez devenir des voyants parce que vous allez voir autre chose que la bougie, vous allez voir la lumière du soleil. Alors que presque tout la Odyssée à l'heure actuelle est aveugle, vous allez devenir des voyants. Vous ne serez plus des chercheurs parce que vous aurez trouvé. Vous ne serez plus en train de trier, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai. Et c'est ça, vous saurez, vous le saurez. Vous ne pourrez peut-être pas l'expliquer, mais vous saurez. Les chercheurs, ils sont encore dans le monde de l'illusion. Ils sont des jouets de l'illusion. Et tant qu'ils affirment « Jésus est présent » ou « Prions pour que Jésus soit présent », ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'illusion. « Seigneur Jésus, viens parmi nous, bénis-nous pendant que nous sommes là et honore-nous de ta présence. » C'est quoi ça? Ce sont des chercheurs qui n'ont encore pas trouvé. Ils sont encore dans le monde de l'illusion. Le voyant, lui, il assimile Dieu à la vie elle-même en entier. En entier. il reconnaît Dieu dans toutes ses voies et il se repose en Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui vit en lui, c'est plus lui. Alors il ne s'énerve pas. Il ne s'énerve pas. Les voyants ne se distinguent pas avec, par des signes particuliers. Ils n'ont pas une auréole ou des trucs comme ça. Quoique, hein, des fois ça arrive. Mais eux, ils savent qu'ils sont membres de « Je suis ». Et ce n'est pas rien. Ils savent qu'ils sont membres du corps spirituel de Jésus-Christ sur la terre. Ils ne choisissent rien parce qu'ils savent qu'ils ont été choisis. Ils savent qu'ils n'ont pas à choisir parce que ce n'est pas eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Et Jésus n'est pas en train d'hésiter qu'est-ce qu'il va choisir. Ils ne cherchent pas, ils savent que Dieu les conduit là où ils doivent être et là où ils doivent faire. Vous allez me dire, mais moi toute la journée je suis obligé de choisir. À quelle heure je vais me lever, si je me brosse la dent gauche ou la dent droite. Non mais tout ça c'est la chair. C'est des choses comme par exemple, on met un pied devant l'autre pour avancer. C'est des choses d'une banalité déconcertante. Mais vous avez des chrétiens qui prient pour connaître la volonté de Dieu au sujet de tout. Et qui sont du souci. Jésus dit, mais arrêtez de vous soucier. Arrêtez de vous soucier, soyez tranquille. Ça en est arrivé à un tel point pour celui qui voit que même la mort, c'est un bien suprême. Parce qu'il sait que la limitation du système créé, ça va s'arrêter. Même ça, c'est fantastique. Alors il soupire, il dit, Seigneur, viens me prendre ça. Parce qu'on s'ennuie dans cette limitation. Voilà ce que c'est la vie de celui qui a la vie de Jésus. C'est facile de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais, Voilà ce que c'est la vie de celui qui est immergé dans la vraie vie. Il ne court pas après des expériences, il vit. Il vit. Il vit de la vie de Christ, il le manifeste. Il y a du miraculeux, il y a de l'amour, il y a la vie de Christ qui se manifeste. Il reproduit la vie que Jésus avait sur cette terre il y a 2000 ans. Il la reproduit sans effort. Comme une fleur qui pousse, c'est sans effort. On n'entend pas les fleurs qui font... qui pousse. Et c'est en cela que toutes choses sont nouvelles, mes frères et sœurs. Ce n'est pas comme avant dans notre système dans lequel nous vivions autrefois dans les ténèbres. Celui qui vit de la vie de Christ, qui est immergé par l'Esprit de Christ, dans le corps spirituel de Christ, il est l'incarnation du Saint-Esprit sur la terre, l'incarnation de l'Esprit de Christ sur la terre, l'incarnation de Jésus, Jésus dans la chair. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il est appelé, alors, à marcher selon cet esprit qui est saint. On oublie des fois, on pense que Saint-Esprit, c'est un nom. Je te baptise au nom du Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, c'est un nom. Non, c'est simplement que c'est l'esprit qui est saint. Il est saint. Tous les autres sont pas saints. Même mon esprit, l'esprit de Michel Janton, il est pas net. Il a encore tellement de choses de progrès à faire. Pour arriver à marcher par-dessus la chair qui est la mienne. À marcher de progrès en progrès. Ça, c'est une expérience de marcher de progrès en progrès. Ah, c'est autre chose que de faire goulou-goulou dans une réunion. Bien que c'est bien de parler en langue, je parle en langue énormément. Mais ce n'est pas ça la grande expérience de la vie chrétienne. La grande expérience de la vie chrétienne, c'est de marcher de progrès en progrès et quand on tombe, de se relever et puis de continuer. Ça, c'est une expérience. Il faut toute une existence pour en arriver à la stature parfaite de Christ dont nous parle l'apôtre Paul. Toute la vie, ça va prendre toute la vie. Alors venez pas me dire, oh j'en suis que là, mais mon pauvre ami, moi aussi j'en suis que là, on en est tous que là. On pourrait tous faire encore des progrès. Alors réjouissez-vous là où vous en êtes et allez plus loin, parce qu'on a encore du boulot, mais le Saint-Esprit est avec nous. Et si nous avons perdu un peu de puissance, eh bien allons sur nos genoux, puis prions jusqu'à ce que nous soyons remplis de ce Saint-Esprit dont nous avons tellement besoin. Et c'est cela, c'est à cela que nous sommes destinés. C'est beau comme vie, c'est très beau comme vie. Regardez la vie des apôtres, lisez la vie, leurs histoires, les choses extraordinaires. Mais regardez aussi la vie des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit d'aujourd'hui. C'est magnifique, c'est magnifique. Ils ont des tourments, des problèmes, des histoires, des machins, des... Mais ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire confiants, tranquilles, De temps en temps, le loup ulule. Qu'est-ce qu'il fait le loup déjà? Je sais plus. Enfin, il gueule. Mais voilà, bon, voilà, il fait son boulot. Et on peut trembler un moment, mais on dit non, 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 Seigneur. Allez, remplis-nous pour qu'il se fasse de nouveau des puissants miracles, des guérisons et des choses extraordinaires. Même pour un chien. Regardez, frère Branham, il avait prié pour un opossum. Je ne sais même pas ce que c'est un opossum. C'est une petite bestiole qu'ils ont là-bas aux États-Unis. C'est un peu comme une espèce de raton laveur, je ne sais pas quoi. Enfin bon. Il a été guéri. On peut prier pour nos animaux aussi qui souffrent. On peut prier pour tout, parce que tout fait partie de Dieu. Tout a été créé par Dieu. Il n'y a pas des choses qui ne méritent pas nos prières. Tout, on peut prier pour tout. Prends autorité au nom de Jésus sur tout, sur les orages, sur les inondations, sur les tremblements de terre. Sur tout, on peut prendre l'autorité. On peut parler même au ciel. Dire au ciel, écoute ce que j'ai à dire. Même dans l'ancienne alliance, ils faisaient ça. Et nous, on est là parce qu'on est mal instruits. Il faut absolument qu'on cherche à comprendre ce que les Écritures disent et pas simplement se baser sur des expériences. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus soit béni, soit remercié pour cela. Permet que nous puissions le comprendre, l'assimiler, et de façon à ce que nous puissions même le dire à d'autres. Merci Seigneur Jésus de nous avoir mis à part pour une vie tranquille de personnes qui savent que tu as tout arrangé pour nous et que nous avons fait que de marcher simplement dans l'obéissance avec toi. Merci Seigneur Jésus. Amen.